Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Solveig Anspach, ses visages et ses paysages avec Florence Loirecaille, Patrick Sobelman et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Il y a des cinéastes comme ça dont on a eu la chance de suivre la carrière dès son éclosion, qu'on a vu avec bonheur s'épanouir et faire œuvre, et dont la disparition brutale remplie de tristesse et de frustration parce qu'on les aimait beaucoup, parce qu'aussi on ne verra plus de nouveaux films d'eux. Solveig Anspach est parti en août 2015 à 54 ans. On l'avait vu apparaître au cinéma il y a presque 20 ans, en 1999, avec Haut les cœurs qui avait ému des centaines de milliers de spectateurs et confirmé en Karine Viard, la grande actrice qu'on connaît depuis. Suivir avec cet art du contre-pied qu'elle revendiquait, un documentaire sur la peine de mort aux États-Unis, Made in USA, et des fictions qui alliaient son goût pour des héroïnes rugueuses et flamboyantes, émouvantes et comiques, et son affection pour les éclopées de la vie, avec Stormy Weather, Back Soon, Queen of Montreuil, Lulu Femme Nue et L'Effet Aquatique, Solveig Anspach, américano-islandaise installée à Montreuil, bref, une véritable citoyenne du monde, a tricoté de merveilleuses histoires, branques et sensibles, loufoques et émouvantes, tissant et métissant la fiction avec le documentaire, car ces longs métrages ne sont que la partie visible d'un immense iceberg cinématographique composé de nombreux documentaires, comme en témoigne un riche et volumineux coffret DVD récemment paru qui rassemble l'intégralité de ces fictions et l'essentiel d'une œuvre documentaire commencée très tôt et fondatrice de son approche du cinéma, un cinéma ouvert sur le monde qu'elle réenchantée, ouverte sur les gens qu'elle filmait et ceux avec qui elle travaillait. Inventrice de communautés à l'écran, Solveig Anspach s'était en effet créé une famille de cinéma qu'elle retrouvait de films en films. Parmi eux, deux fidèles, des bons et des mauvais jours, l'actrice Florence Loirecaille, son Agathe, sa reine de Montreuil et sa maître nageuse, et le producteur Patrick Sobelman, qui l'a accompagné et soutenu de Haut les cœurs à L'Effet Aquatique, son dernier film. Ils sont dans Plan large aujourd'hui et on les en remercie. Avec eux, Ntebin, amoureux lui aussi du cinéma de Solveig Anspach et qui, en fin d'émission, nous évoquera la ressortie en salle d'un classique de la science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise.
Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier ?
Actrice.
C'est vrai,
actrice ou là? Non, chanteuse, non, j'ai pas une belle voix, il faut la travailler, ma voix. Non, chanteuse, non, actrice. Actrice, ouais. J'ai fait beaucoup de photos, mais je préfère l'actrice. J'aimerais vraiment faire ça. Je peux, en plus. Je suis pas un boudin, je suis pas grosse. On rigole pas derrière. C'est vrai. C'est mon rêve depuis toute petite.
Et tu aimerais faire quel genre de rôle?
Boujna style, comique. Pas des films style Sophie Marceau, L'amour braque, là. Non, non, merci, pas ça. Non, des films comiques style L'œil au beurre noir. Que j'ai regardé et c'est un film comme ça que j'aimerais bien faire. Trop marrant et tout. Mais ça, ou alors un film, ce qui était passé aussi sur la drogue, c'est-à-dire que c'était une mère et une fille, bon, puis c'est un film, hein. T'as dû le voir. La fille est une droguée et la mère souffre à cause de ça, quoi. C'est pour faire voir aux gens, c'est quoi la drogue, j'aimerais bien faire voir ça, quoi.
Voilà, c'est un extrait d'un des premiers films, Patrick Sobelman, quand le rouge est mis, il ne faut plus parler. Sauf quand c'est à votre tour, c'est l'un des premiers films de Solveig Anspach, un film qu'elle avait fait à la Fémis, la Tire. Celle qu'on entend, c'est Sandrine. Sandrine, à qui elle consacrera quatre films. Sandrine qui rêvait aussi d'être Julia Roberts dans Pretty Woman. C'est un film réalisé donc pendant ses études à la Fémis. Solveig Anspach appartient à la toute première promotion de l'école de cinéma de la rue Francoeur. Et quelle promotion, la promotion 1990, riche de futures femmes cinéastes. Il y avait aussi Noémie Lvovsky, Émilie Deleuze, Christine Carrière, Sophie Filière, Emmanuel de Maurice. Il y avait aussi quelques garçons talentueux comme Arnaud Despalières et Frédéric Videau. Sa condisciple, qui a beaucoup fait pour la réalisation de ce coffret, condisciple à la Fémis, la monteuse Anne Riegel, qui a travaillé avec elle depuis les films de la Fémis dès 1987 et jusqu'à la fin, en 2015, ce qui fait d'elle sans doute la membre la plus ancienne de cette famille de cinéma. Elle souligne dans le livret tout à fait copieux qui accompagne ce coffret DVD que Solveig Hansbach est la seule de la promotion 1990 de la Fémis, donc 19 élèves dans la section réalisation, qui va choisir le documentaire pour son travail de fin d'études. Ce documentaire, on va en parler tout à l'heure. Bonjour Florence Loirecaille, bonjour Patrick Sobelman. Qu'est-ce que Solveig Hansbach vous disait de son goût pour le documentaire, de son besoin d'y revenir régulièrement, comme pour s'y ressourcer, Patrick Sobelman?
Solveig a jamais arrêté de faire des allers-retours entre le documentaire et la fiction. Enfin, elle a commencé par le documentaire très longtemps avant d'aborder la question de la fiction avec Olecker. Donc, elle a pratiquement pendant 7 ou 8 ans travaillé que sur la matière documentaire. Et elle y est revenue après avoir commencé à travailler en fiction. C'était un besoin pour elle. Je crois que c'était simplement, elle ne faisait pas une grosse différence entre le documentaire et la fiction. Pour elle, c'était filmer aussi beaucoup du réel. C'est quelqu'un qui vivait comme vous et nous, complètement les pieds sur terre, dans son univers, et qui avait absolument besoin de se ressourcer en filmant des gens qui avaient des gens à la fois normaux et des gens exceptionnels. C'est-à-dire qu'elle cherchait ce qu'il y avait d'exceptionnel chez chacun d'entre nous.
Oui, chez Solveig Hansbach, que les gens normaux ont quelque chose d'exceptionnel.
Absolument, exactement. Comme vous l'avez dit, elle a elle est une citoyenne du monde avec des racines très fortes en France, en Islande et aux États-Unis, donc c'est pas tout à fait surprenant que ce soit d'ailleurs dans ces trois pays-là qu'elle ait fait la plupart de ses films documentaires.
Alors ça, on va décliner les territoires de Solveig Hansbach ultérieurement, mais elle vous en parlait, Florence Loirecaille, de ce goût, ce plaisir du documentaire?
Oui, ça, comme a dit Patrick, de la même façon, elle disait qu'elle avait deux planètes, l'Islande et Montreuil. Elle a toujours effectivement fait des ponts entre la fiction et la réalité, le documentaire et la fiction. Et même dans sa façon de filmer ses acteurs, je trouve qu'il y a beaucoup une attitude documentaire. C'est-à-dire qu'il y a un scénario effectivement qui est écrit avec un de ses fidèles compagnons, scénariste Jean-Luc Gagé. Il y avait une porte ouverte beaucoup sur le plateau pour prolonger un peu le texte après celui qui était écrit, et du coup elle se mettait toujours dans une position de spectatrice quand elle nous filmait, et nous, ça nous excitait beaucoup de la surprendre pendant les prises.
Alors, une des raisons de ce coffret, Patrick Sobelman, coffret DVD, donc 10 DVD, énormément de films, c'était de faire découvrir cette dimension documentaire du cinéma de Solveig Hansbach, parce qu'on connaît les films de fiction, on connaît un documentaire, on va y arriver tout à l'heure, qui était sorti en salle, Made in USA, mais c'est un continent documentaire complètement incroyable qu'on redécouvre ici.
En fait, c'est Anne Riegel, donc l'amie monteuse, qui a monté la plupart des films de Solveig, pas tous, parce qu'il y a également Mathilde Grosjean qui en a monté pas mal. Mais c'est Anne Riegel qui m'a dit, qui est venue me voir un jour en me disant, en fait, on connaît bien l'œuvre de fiction de Solveig, mais on connaît pas son travail documentaire qui est considérable. Et j'aurais aimé qu'on puisse l'éditer, le retrouver et l'éditer. Donc on est parti ensemble sur l'idée de faire un coffret sur le travail documentaire de Solveig. Elle a fait un travail gigantesque pour réunir, retrouver les masters, retrouver des copies et les ayants droit. Et puis un jour, elle est arrivée avec ce travail considérable en disant, voilà, c'est là, hein, il y a pratiquement tout est disponible et possible. Et en allant voir Blackout et le Pacte, qui étaient d'accord pour le coéditer avec nous, ils ont dit, très bien, faisons-le, absolument, mais joignons également le travail de fiction et faisons l'intégrale Solveig. Donc c'est comme ça qu'est né de coffret tel qu'il existe aujourd'hui, mais à partir d'une envie de réunir le travail documentaire de Solveig.
Mais d'autant que les uns éclairent les autres, Ntebin. Revoir ces documentaires, notamment les premiers, c'est voir que le goût de Solveig Hansbach pour les personnages féminins et complexes ne date pas de ses débuts dans la fiction. On a ici Sandrine, elle va faire 4 films avec elle. Sandrine, c'est une pickpocket qu'elle va rencontrer dans une cour de tribunal, qu'elle va aller filmer en prison après la prison. D'ailleurs, on l'entendait dire « je voudrais être comédienne ». Bertrand Tavernier va la voir dans les films de Solveig Hansbach et va la faire jouer, hein, 2 petits rôles. Je crois que c'était dans L'Appât et Capitaine Conan. Et là, on a déjà effectivement quelque chose qui se complique, puisque Sandrine à Paris, long documentaire consacré à Sandrine, comporte énormément d'éléments fictionnels. Il y a des acteurs qui vont jouer des personnages réels de sa vie. Dans « Que personne ne bouge », consacré aux braqueuses d'Avignon, 5 femmes qui avaient fait 7 braquages de banque. Elle va salarier ces personnages, qui se fait a priori pas trop dans le documentaire. Les frontières sont brouillées très vite, Ntebin.
Bah, c'est-à-dire, revenons sur ce coffret. C'est vrai que moi, je me suis jeté sur ces documentaires dont j'avais entendu parler. Parce qu'en fait, j'ai rencontré Solveig Hansbach à l'occasion d'un débat qui était animé par mes étudiants à Paris 1. Et ça a été très long, très intense. Je pense que c'est l'un des meilleurs entretiens qu'elle ait jamais donné, parce que justement, elle était face à des étudiants qui avaient bien préparé, qui avaient vu ses films, etc. Et alors, s'il y a bien quelque chose qui la caractérise, je pense, et qui ressort très bien de ce coffret, c'est que pour elle, il n'y a pas de frontière. Alors, il n'y a pas de frontière géographique et il n'y a pas de frontière de genre. Et c'est vrai que ces documentaires sont nourris de fiction. C'est vrai que ces fictions sont nourries du réel. Et un exemple dans le film Sandrine à Paris que vous citiez, à un moment donné, elle est en train d'interviewer Sandrine. D'ailleurs, on voit Solveig Hansbach dans le miroir. C'est-à-dire, on voit l'intervieweuse et l'interviewée ensemble. Donc, elle n'hésitait pas non plus à être actrice de ses propres films. Dans ce film-là, elle s'interviewe elle-même pour raconter comment elle est intervenue dans la vie et dans le procès de la dite Sandrine. Et puis, à un moment donné, elle a prévu de faire surgir un acteur qui vient draguer Sandrine, mais sans la prévenir. Et elle filme ce réel, cette improvisation, à partir de quelque chose qu'elle a provoqué. Donc, et de la même manière, elle aimait beaucoup tourner avec des animaux, parce qu'elle disait, avec des animaux, on est forcément dans le documentaire.
Ah, ça, on va en parler des animaux tout à l'heure avec Florence Moricaille.
Et justement, comment filmer, on en reparlera peut-être, mais comment filmer avec un très gros animal dans une toute petite salle de bain? Eh ben, on fait comme si on faisait un documentaire. C'est du tourné-monté. Puis après, on est très déprimé au rush parce que il y a tout le temps quelqu'un dans le champ, et puis parce que il y a toujours un micro, et puis il faut se pousser, etc. Mais on arrive à produire un objet unique qui n'est ni l'un ni l'autre.
Alors, fiction documentaire, on a dans ce coffret les films que Solveig Hansbach a réalisés à Sarajevo, hein, notamment interviewant des casques bleus et les populations assiégées. Et puis, rentrant de Sarajevo, Solveig Hansbach, qui est enceinte, découvre qu'elle a un cancer. Elle suit un très lourd traitement. Ses proches lui conseillent d'en tirer un documentaire. Art du contre-pied de Solveig Hansbach, elle va en tirer une fiction. Et quelle fiction ?
Faut enlever le bébé pour me soigner. Faudrait que t'appelles maman et puis Olivier. Parce que moi j'y arriverai pas. Il m'a dit aussi que qu'il faut que tu viennes avec moi à un prochain rendez-vous pour qu'on puisse discuter ensemble de ce qu'il faut faire.
Tu vois, il t'aura pas embêté longtemps, ce bébé.
Arrête.
C'est un extrait de Haut les cœurs, évidemment, Karine Viard dans le rôle d'Emma et Laurent Lucas dans le rôle de Simon, film qui vaut à Karine Viard le César de la meilleure actrice en 2000. Vous vous souvenez, Patrick Sobelman, c'est votre première collaboration, je crois, avec Solveig Anspach. Comment est-ce qu'elle vous a présenté ce sujet, a priori extrêmement casse-gueule, hein, et dont elle tire un film magnifique?
D'abord, je voudrais dire que j'ai revu le mois dernier à la Cinémathèque, à l'occasion d'un hommage qui était consacré à Solveig, j'ai revu Haut les cœurs, que je n'avais pas revu depuis, disons, 2000, 2001. Enfin,
je l'ai revu dans le coffret
et le film m'a accueilli complètement, beaucoup plus que je m'y attendais. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris une ride et il est d'une force incroyable, en fait. J'ai été beaucoup plus bouleversé que je ne pensais en le revoyant. C'était son premier film, c'était également mon premier film à moi. On était deux débutants, quoi. Et l'histoire est magnifique aussi pour moi, elle est magnifique aussi de ça. On a marché ensemble, qu'on a avancé ensemble. On ne savait pas plus l'un que l'autre, en fait. Elle me l'a présenté par une amie commune et en disant, tout le monde me dit de faire un documentaire et en fait, je ne sais pas trop pourquoi, mais je voudrais bien faire une fiction parce que ça me paraît. Probablement, je pense qu'elle avait en tête l'idée qu'en faisant une fiction, il y a plus de gens le verraient et qu'il y avait quelque chose quand même qui relevait là aussi malgré tout de l'envie de témoigner de quelque chose, d'une force de vie, de quelque chose qui est très beau puisque c'est en fait une croyance complète dans les forces de vie en fait à travers ce film. Je pense que c'est ça. Et ce qui était frappant, c'est que dans le premier scénario, parce que elle est arrivée avec un scénario qui était mal fichu. Mais dans lequel toutes les parties, en l'occurrence documentaires, réelles, c'est-à-dire le rapport à la maladie, le rapport au médecin, qu'on voit dans le film, on n'a pas changé une ligne depuis la première version, c'est-à-dire tout était en place complètement. C'est plutôt la partie fiction, c'est-à-dire le rapport avec le frère, avec
Ce qu'elle racontait, c'est qu'elle avait eu tendance à partir dans la comédie, sans doute par crainte que le côté émouvant soit trop dur pour le spectateur, que vous l'avez poussé à y aller, franchement.
Oui, abordé. Pierre-Erwan Guillaume, qui était son co-scénariste, a eu un rôle très important là-dedans. Il l'a vraiment poussé en sélection. En fait, le seul travail à faire, c'était de lui dire « Aie confiance dans ton sujet ». Voilà. Après, effectivement, ça s'est un peu gâté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont dit « Mais enfin, on fait du cinéma, c'est pas... » Je me souviens très bien, à l'époque, du responsable de France 2 Cinéma, qui nous a dit « Mais écoutez, fait du cinéma, nous, c'est pas... » Donc, ça a été plus compliqué pour le financer. Heureusement, il y a eu l'avance sur recette. Pour un premier film, l'avance sur recette reste un endroit décisif, symbolique mais décisif, qui a lancé tout et qui nous a permis de le faire.
C'était pas fini d'avoir des difficultés à financer les films de Solveig Anspach.
C'est vrai.
On va en reparler. Anne Thébin, quelques années après, 17 ans après, 18 ans après, Haut les cœurs.
Moi j'ai pas voulu le revoir. Je trouve ça parce que j'ai dans la tête toutes les images, encore plus que ce qui est raconté. J'ai ces images qui sont d'ailleurs reprises dans le livret, par exemple de la tombe de cheveux du personnage, où on voit qu'on tond aussi les cheveux de l'actrice. Donc, et ça, c'est typiquement Solveig Anspach. C'est-à-dire que on va pas aller mettre un postiche comme pour beaucoup. Voilà, on fait subir ou on fait vivre le personnage par l'acteur ou l'actrice qui l'incarne. Parce que Solveig Anspach, je pense, chez ces acteurs, il faudra demander à Florence Loiret-Caille, mais ce qu'elle ne cherche pas, ce qui ne l'intéresse pas, c'est le savoir-faire de l'acteur. C'est ce qui l'intéresse, je crois, c'est l'être. C'est-à-dire, elle n'a pas voulu... Par exemple, elle disait à Karine Viard, ne m'imite pas. C'est toi, le personnage, c'est toi qui dois jouer.
Florence Loiret-Caille.
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est... Comme dans les situations comiques où elle nous disait faut y croire, c'est nous dans cette situation, donc qu'est-ce qu'on ferait si, faut croire en ce qu'on incarne, en ce que l'autre incarne. Effectivement, il n'y a pas de professionnalisme.
Oui, faut pas essayer d'être drôle,
non, absolument pas, jamais.
C'est une comédie.
Jamais.
Ou d'être émouvant, ou de pleurer parce qu'il est marqué dans le scénario. Là, elle est au bord des larmes.
Ouais, non, c'est pas du tout. C'est ça qui rendait le moment du tournage unique, quoi, en fait. Parce que chaque prise aussi, c'était un moment, un instant T, hein, qui est. qui était vraiment captée par Solveig et par son équipe aussi, parce qu'elle était entourée aussi de techniciens qui étaient très à l'affût de ça aussi, de cette vie-là, quoi, ce moment de vie-là, quoi.
Alors il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que autant comme on l'a dit tout à l'heure, elle mettait parfois des comédiens dans ses documentaires, mais dans ses films de fiction, elle faisait très souvent un mélange entre acteurs professionnels et non professionnels. Et la seule chose, c'est que Solveig Ransbach, et on le découvre beaucoup dans le documentaire que Jean-Luc Gaget a consacré à l'effet aquatique, mais aussi dans ses déclarations, c'est qu'elle elle est très attentive à ce qui se passe derrière la caméra. C'est-à-dire, il n'y a pas que le film, il y a aussi comment est-ce que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas comédien va, dans un documentaire, tout d'un coup, être un héros, fêté, entouré, etc. Et puis ensuite, le film est fini, et chacun s'en va dans son coin, et puis celui qui a été le héros du jour, il se retrouve tout seul. Elle disait que ce qui était très dur, c'est assez beau ça, elle a tourné beaucoup de films dans les prisons, parce que un concours de circonstances comme ça de ses premiers films, elle disait que ce qui est dur quand on va interroger les gens dans les prisons, c'est que nous, on rentre chez nous le soir et qu'ils restent en prison. Et c'est pour ça qu'elle a fait ces films-là.
Parfois, c'est plus dramatique encore.
Do we kill people this way and then demand human rights around the world? We bomb countries and put sanctions on them and starve their women and their children, and yet we kill people in our own country? My God, what have we come to? And since there is a God, and I believe there to be a God, then we're in a circumstance where the God of justice, there is no statute of limitations on murder and injustice carried out by the state. And America has to answer for what she has done. Well, look at this gentleman, Odell Barnes. He had a criminal background. There wasn't anything socially redeeming about him, and that, in fact, in the deed, he deserved what he got. Well, for those who would speak like that and think like that, when you look at a poor, educated, young black man in America without a hope of going forward and receiving all of the blessings and fruits of America, whatever you say Odell Barnes is negatively, I want you to always remember, look across his forehead, and what you'll see is made in the USA.
Souvenez-vous toujours, sur son front est marqué « Made in USA ».« Made in USA », extraordinaire documentaire de Solveig Ransbach. Or là encore, art du contre-pied absolu, et pas tant que ça, puisque ce film consacré à Odell Barnes, qui était condamné à mort au Texas et qui a été exécuté, c'est un peu comme dans Emma, dans Holy Cœur, c'est quelqu'un qui est pris dans une injustice totale qu'il ne maîtrise absolument pas et qui va essayer de se battre contre la mort. Lui va perdre le combat, et c'est aussi le côté américain de Solveig Ransbach, hein. Il faut rappeler que son père était généalogie très très compliquée, hein, chez Solveig Ransbach. Son père juif roumain, né d'un couple germano-roumain à Berlin, qui fuit l'antisémitisme, qui va aux États-Unis, qui revient en Europe pour faire le débarquement. Il se réinstalle à New York, il refuit les États-Unis parce qu'il est communiste et il veut fuir le macartisme. Mais c'est aussi le côté, et elle en parlait beaucoup, Solveig Ransbach, son côté assistante sociale, son côté, et ça à cause de l'éducation qu'elle avait reçue de son père, il faut se battre contre les injustices. Elle va en faire le sujet de son second long métrage de fiction, Stormy Weather, qu'elle va faire avec vous, encore Patrick Sobelman. Il y a ce personnage de Cora joué par Elodie Boucher, médecin psychiatre qui veut prendre en charge tous les problèmes du monde et qui ne trouve pas la juste distance. Et la juste distance, c'est une des grandes questions aussi de Solveig Ransbach, notamment dans le documentaire. Patrick Sobelman.
Oui, Solveig avait, elle était comme ses films. Elle est le personnage de ses films. Elle était comme ça. Parce que quand on, chez elle, on retrouvait toujours toutes sortes de gens. Elle accueillait tout le monde. C'était vraiment, c'était à la fois la maison du bonheur, et en même temps, on y parlait du monde tout le temps. Enfin, je sais pas comment dire. C'était inscrit. Tout était mélangé. Mais Solveig n'était intéressée que par les injustices, que par les gens qui, elle se considérait, elle, comme nantie, comme privilégié par la vie d'une certaine manière par rapport à la vie de presque tout le monde à côté. Et donc elle n'a eu de cesse que de raconter ça, que témoigner ça. C'est pratiquement le seul sujet qui réunit en tout cas tous ses films, bien sûr, oui.
Debine, je ne sais pas si vous avez revu Made in USA. Le film était sorti un peu à un mauvais moment. Il a été peu vu en salle, je crois, à cause de ça, puisqu'il est sorti juste après quasiment les attentats du 11 septembre. Et le public, en pleine empathie avec les États-Unis, n'avait pas envie de voir cette face-là très sombre et très corrompue du système judiciaire américain.
Ben oui, mais justement, alors, ce qui est hallucinant quand on voit ce film aujourd'hui, c'est qu'on voit que George Bush, qui est alors gouverneur du Texas, on voit déjà que ce qui va devenir après les attentats du 11 septembre et tous les conséquences que ça va avoir sur notre vie encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est déjà en substance dans ce film qui, en plus, bon, c'est l'un des rares films de Solveig Anspach qui prend pour héros un homme et non pas une femme. En plus, un homme qui est accusé d'avoir violé et tué une femme. Donc, et justement, on dit côté assistante sociale, moi, je dirais que ce qui est important dans le regard de Solveig Anspach, c'est qu'elle dit au spectateur, ne jugez pas, ou laissez-vous votre liberté de jugement. Puisque, peut-être qu'il est coupable, peut-être qu'il n'est pas coupable. S'il y a le moindre doute, il faut pas l'exécuter. C'est tout ce qu'elle dit, pas plus. Elle fait pas une enquête pour savoir si les taches de sperme sont effectivement le résultat. Elle fait pas une enquête. Elle nous donne une expérience humaine à voir, et puis c'est à nous de nous faire notre propre opinion.
Beyond a reasonable doubt.
Bonsoir Ekaï, vous avez eu un geste très éloquent pendant qu'on écoutait cet extrait. Je vous laisse donc le décrire.
C'est une guitare qui tombe du ciel avec une main et une veste en cuir verte, celle de Detta Jonsdottir.
Vous le dites très bien, beaucoup mieux que moi. Detta Jonsdottir, muse double cinématographique de Solveig Anspach, poétesse, éboueuse, pour se payer l'écriture de ses poèmes. Vous avez tourné avec elle, on va en parler tout à l'heure, dans Queen of Montreuil, mais là c'est la première apparition de Detta Jonsdottir dans Baksoon. Vous parliez de La Maison du Bonheur, c'est vraiment ce film, c'est La Maison du Bonheur, le film très accueillant, et fiction tournée entièrement à Reykjavik et sur les routes d'Islande, c'est aussi un road movie. Parlez-nous de Detta Jonsdottir, Florence Warekai.
Ah, Detta, c'est, oui, c'est ça, c'est, oui, c'est l'Antoinette Doinel de Solveig, c'est ses fils aussi qui ont participé au film de Solveig depuis Baksoon. C'est une femme que Solveig a rencontré dans un café à Reykjavik, je crois, et parce qu'elle avait rencontré plein d'actrices islandaises et ça marchait pas, et en fait elle a repéré cette femme dans un café. Elle aimait bien raconter ça, et Detta est arrivée, elle a tapé hein, du poing sur la table en disant « Tu veux me faire jouer ?»« Ouais, je veux bien. » Et de là est partie leur folle amitié, quoi.
Patrick Sobalman.
Moi, j'ai une anecdote, enfin, un souvenir très fort de Detta, qui est un personnage très, très fort, qui a une personnalité très, très forte. C'était à Cannes, où Stormy Weather avait été présenté à Un Certain Regard, et Solveig et Detta ont été invités sur le bateau d'Arte pour une émission, je crois, qui a été présentée à l'époque, il me semble, par Ariel Wiesman, si je me souviens bien, je suis pas tout à fait sûr. Et donc, elle participe à cette émission, et à un moment donné, donc, le présentateur, je crois que c'est lui, mais je suis pas tout à fait sûr, lui demande, pose une question à Detta en disant quelle est la principale différence entre l'Islande et Cannes. Petit moment de silence, et Detta s'approche du micro et dit, donc je vais le dire en français, elle l'a dit en anglais, il y a plus de noirs en Islande qu'à Cannes. Et ça, c'était voilà, ça c'était formidable. Je crois que Solveig est parti dans un fou rire qui ne s'est pas arrêté. L'autre est resté complètement. C'était formidable.
Elle trouve avec Detta Jonsdottir un personnage extraordinaire parce qu'il est à la fois très âpre, très très direct, rugueux et extrêmement loufoque et inventif. On parlait. Alors là, c'est sans doute ce mélange entre l'Islande et l'Amérique qui provoque ça, parce qu'on a parlé ici de Preston Sturges et d'autres grands spécialistes de la comédie loufoque screwball américaine complètement brinque-zing. Et il y a cette dimension-là dans les films de Solveig Anspach et Tebbin.
Absolument, oui. Il y a cette bouffonnerie, il y a ces bouffées de légèreté parmi les choses les plus tragiques. Il y a même ça dès son tout premier film qu'on voit qui est extraordinaire, je n'avais jamais vu, qui s'appelle Par amour. Et en fait, bon, c'est l'histoire d'une femme qui est emprisonnée pour un crime passionnel. Elle a tué
son amant Boucher.
Voilà, son amant Boucher. Elle refuse d'être filmée. Donc, Solveig va filmer la boucherie avec en noir et blanc. C'est un petit documentaire sur le discours de la femme qui raconte l'histoire. Et puis, elle demande à cette femme, mais qu'est-ce qui vous manque le plus en prison? Et puis, la femme lui dit les fleurs, la mer et les chevaux. Et elle va insérer trois plans en couleur dans ce petit documentaire de ces trois choses-là. Voilà. Et donc elle avait besoin pour elle. Je pense que la légèreté ou la drôlerie ou le côté ludique de son cinéma ressort au milieu de la morosité ambiante. C'est pour ça que Robert Guédiguian dit une chose très bien dans le livret. Là, c'est une citation. Il dit Solveig, c'était notre porte-bonheur. Et ensuite, il dit maintenant, c'est notre ange gardien.
Allô ?
Allô ?
Je voudrais parler à Monsieur Martin.
Je voudrais parler à Monsieur Martin.
C'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vincent, monsieur. À l'appareil.
Bonjour, monsieur.
Monsieur Martin, à l'appareil.
Je voudrais parler à Monsieur Martin.
Je voudrais parler à Monsieur Martin.
Vincent.
Ne quittez pas, je vous le passe.
Où êtes monsieur ?
Ne vous quittez pas.
Où êtes bonjour ?
Où êtes monsieur ?
Je voudrais parler à Monsieur Martin.
Il n'est pas dans son bureau. Vous pouvez rappeler plus tard.
Il n'est pas
d'accord. Jour. Je le rappelle dans 15 minutes.
Bideux. Il n'est pas son bureau. Vous pouvez l'appeler...
Plus tard.
Plus tard. Plus tard.
Vous voulez laisser un message.
Vous voulez...
Laisser un message.
Laisser un message. Un message. Un message. Vous voulez...
Laissez un message.
Un message. Laissez.
Vous voulez laisser un message.
Vous voulez laisser un
message.
Message. Ok.
Robert.
Message. Ma période. Et ça me le sait.
Petite leçon de français dans Reykjavik, des elfes dans la ville, extraordinaire documentaire. Alors là, où les frontières fiction documentaire sont totalement brouillées, hein, le genre de documentaire où on fait plusieurs prises par plan, où tout est mis en scène, le choix des vêtements, etc., et qui nous raconte une jeunesse à Reykjavik. L'importance de l'Islande chez Solveig Anspach, sa mère donc était islandaise, première femme architecte en Islande. Son film de fin d'études sud dont je parlais tout à l'heure à la Fémis, est tournée dans l'île de naissance de sa mère, là où elle-même est née, Vesmanyar, petite île au climat et à la géographie assez hostile.
Où elle est retournée filmer Stormy Weather. Ouais,
exactement. Et moi, je me souviens de ces premiers plans de Baksoun, premiers plans aéroportés comme ça. Alors, c'était pas des drones à l'époque, mais on a l'impression que c'en est un qui suit ces coulées de lave et cette géographie complètement folle de l'Islande, mais c'est aussi le goût de la langue. Il y a un plaisir de la langue chez Solveig Anspach, comme on l'entend dans cet extrait, Patrick Sobelman.
Des elfes dans la ville, d'ailleurs, qui est un documentaire qui a été produit pour la télévision, pour Arte. C'est formidable parce que en fait, ils sont assez joyeux, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont la, et en même temps, on voit cette espèce de tristesse, de dureté de la vie en Islande, qui est une île, qui est donc isolée, où ils ont quand même le sentiment que c'est difficile de partir. Il y a ce côté très insulaire de l'Islande. Il fait quand même nuit une grande partie de l'année aussi. Enfin, il y a quelque chose de dur en Islande, et en même temps.
Oui, elle parlait d'un peuple maniaco-dépressif. Voilà. Hein, déprimé pendant l'hiver et hyperactif pendant l'été.
Voilà. Et en même temps, ils ont tous, les Islandais ont trouvé pas mal de solutions pour lutter contre cette tendance-là. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de musique. Ça boit beaucoup, ça s'amuse, parce qu'il faut résister, quoi. Et c'est leur façon de résister, et c'est ça qu'on voit dans Désert dans la ville, et c'est une chose, un très 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 beau film.
Il y a aussi des faussaires, moi j'adore ce film que je ne connaissais pas, faux tableau dans vrai paysage islandais, qu'on peut voir dans le coffret Enfin en islandais, parce que quand le film est diffusé sur Arte, on va mettre des voix françaises par-dessus, et c'est vrai que le goût de la langue, le plaisir de la langue, l'Islande vue par Solveig Anspach, Entemin.
Elle disait que c'était une manière pour elle de s'échapper des appartements haussmanniens, donc c'est vrai que pour le cinéma français, c'est un ailleurs très salutaire, je pense. Mais moi, j'aime bien aussi ce documentaire sur les faussaires. Et surtout, le fait qu'il y a un type qui a acheté un tableau qui est un faux et qui devrait être scandalisé. Mais ça a eu un tel retentissement médiatique, cette histoire, qu'à la fin, il est très, très content de pouvoir mettre dans son salon ce faux qui a été à la une de tous les journaux en Islande. Voilà la manière dont elle filme la réalité, les paradoxes du réel pour en faire quelque chose qui est au-delà de la fiction.
Et quand on ne vient pas en Islande, le plus simple, c'est de faire venir l'Islande à soi.
I just want to find my fucking suitcase. It had my wedding dress in it. What if they don't find it?
Eh? Ils vont la retrouver, votre valise, et puis s'ils la retrouvent pas, vous serez remboursé.
Hann er reyna að segja ef er finn ekki töskuna, muni, þú veist, endurgreiða þetta.
Það er ekki takt að bæta neitt sem í þessari tösku.
You are from Iceland, right? Iceland. I've been in Iceland for work. People were so great with me. Ça, je l'oublierai jamais. Ça, je l'oublierai jamais. Pour le travail, j'étais là-bas.
Pardon, mais qu'est-ce que c'est?
Comment?
Qu'est-ce que c'est?
C'est mon mari. Je suis toute seule maintenant. I'm alone now. Alone.
Huit, place de la Fraternité à Montreuil.
Oui, au 8, oui.
C'est le début de Queen of Montreuil, c'est votre entrée dans le cinéma de Solveig Anspach, Florence Loire-Écaille. Il faut préciser que Agathe, le personnage que vous jouez, et donc qui rencontre à la douane de l'aéroport d'État Jónsdóttir, Anna, Agathe porte sur ses genoux une urne dans laquelle il y a les cendres de son mari. C'est pour ça qu'elle dit « c'est mon mari qui est là ». Comment ça s'est passé cette rencontre avec Solveig Anspach? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué entre vous du fait que vous avez passé votre enfance en Indonésie, que vous découvrez la France, vous devez avoir 16 ans, et on a le sentiment que vous avez toutes les deux ce regard de française décalé, comme si vous aviez un regard extérieur à chaque fois sur ce qui se passait.
Oui, c'est vrai. J'ai grandi dans une île aussi et on s'est rencontrés de manière classique, en fait, comme une rencontre dans un café. Et puis, en fait, il y avait un film dans lequel j'avais joué qui venait de sortir, qui s'appelait Au voleur, avec Guillaume Depardieu, un film de Sarah Léonore. Et j'étais en train de, comment dirais-je, dans J'étais pleine de chagrin parce que Guillaume n'était pas là pour la sortie du film. Et donc, déjà, ça créait un lien entre nous puisqu'elle cherchait quelqu'un qui était en deuil. Et moi, j'étais dans cet état-là. Et tout de suite, en fait, ça a vraiment conditionné nos rapports. C'est-à-dire, tout de suite, la vie et la mort nous ont vraiment réunis, quoi, en fait. Et là, au-delà de la géographie de l'enfance, je pense que c'est parti de là, en fait. Et ça nous a jamais quittés, en fait. À chaque fois, il y a eu des allers-retours entre, effectivement, la vie et la mort, quoi. Ouais. Et quand on tourne, on enregistre de la vie. Et c'était très fort avec Solveig, puisque la sage-femme malade, surtout sur l'effet aquatique, du coup, le tournage a pris complètement une autre dimension, quoi. Et ça devrait être ça tout le temps quand on joue, quoi. C'est enregistrer de la vie et c'est des moments qui vont disparaître. Et ensuite, quand elle m'a proposé le rôle, ce tournage a été une fête. Voilà. C'était une fête, alors qu'on parlait de deuil, mais chez Solveig, dans ce film, l'amour fait pleurer, l'amour fait rire. La mort fait rire et je me souviens, tous les week-ends, on faisait des pots et elle avait ce culte-là du Proust, là, de faire des toasts toutes les 5 minutes. Ça, c'est très islandais aussi. Et Detta, qui était là à Montreuil avec son fils Ulver, qui errait dans Montreuil et dans Paris. Et c'était, voilà, tout était mélangé pareil. On improvisait, on jouait plus, quoi. C'était nous, quoi, dans l'univers de Solveig et tout le monde jouait le jeu, quoi.
Alors, il y a cette scène formidablement émouvante pour moi, parce qu'il s'y joue quelque chose, je trouve, de très vrai. Anne Tebbin parlait tout à l'heure de cette complexité de filmer avec une otarie dans une salle de bain, mais dans cette salle de bain, il y a aussi vous, dans une baignoire, avec l'otarie qui arrive, et il se passe quelque chose de très complexe à ce moment-là, c'est que votre personnage lui-même se demande ce qu'elle fait là avec cette otarie, se met à pleurer, et on sent que c'est aussi Florence Loire-Écaille, un peu terrifiée d'être avec ce monstre animal dont on ne sait pas trop ce qu'il va faire, et c'est un des plans les plus émouvants que j'ai vu et que j'ai revu là. Ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans cette pièce avec Solveig Anspach de l'autre côté de la caméra?
Rien que d'en reparler, j'ai encore des frissons, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un état second, c'est-à-dire que déjà c'est comme un animal préhistorique, ou alors une énorme limace qui vient d'un autre monde. Et il y a l'odeur aussi, mais ça on l'a pas à l'écran, mais c'est comme si on avait, je sais pas, 1 milliard de poissons pourris dans chaque narine. Donc je m'étais badigeonnée de baume du tigre. Et en fait, il était question que je sois debout, en fait, dans cette baignoire. Et le papa de Fifi Lotari m'avait dit, quand même, bon, ce serait peut-être mieux que tu sois assise. Et moi, je dis, bah oui, moi aussi, je pense instinctivement qu'en tant qu'animal, j'aimerais bien être assise aussi face à Fifi. Et parce qu'après, il m'avait dit, parce qu'elle aurait pu t'attaquer à la jugulaire ou à la zézette. Donc, je dis, bon, bah, j'ai bien fait de rester dans la baignoire. Mais effectivement, après, dans la baignoire, bon, bah, il n'y a plus de jeu quand on joue plus. Effectivement, c'est nous dans une situation où qu'est-ce qu'on fait quand on a une otarie et avec ce moment de grâce incroyable où, à un moment, Fifi pose sa tête sur le rebord de la baignoire. Et ça, c'est, on se dit, mais les dieux sont avec nous, quoi. Les dieux de, on ne sait pas, du cinéma, du jeu, de la vie, je sais pas. Et Fifi a posé sa tête sur le rebord de la baignoire. Bon, après, effectivement, la monteuse a un petit peu galéré, je pense, mais je pense que ça en valait la peine.
Mais les dieux étaient avec vous, et heureusement, parce que les financiers y étaient assez peu. Patrice Bollmann, elle aimait bien, c'est la grande spa que Jean-Luc Gaget parlait de Baksoun, Queen of Montreuil et l'effet aquatique comme sa trilogie fauchée. Le film a failli ne pas se faire, elle le raconte, ouais. Et à un moment, elle dit, d'ailleurs c'est dans le livre dont vous parliez, Anne Tebbin, hein, documentaire et fiction aller-retour, à un moment, avec Robert Guédiguian, vous lui dites, bon, on va le faire, même s'il n'y a pas d'argent.
Oui, en fait, on n'est pas arrivé à financer Queen of Montreuil. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, avec Florence, Jean-Luc, Samir Et Solveig, on a bu un coup pour enterrer le film et pour le mettre sur une étagère en disant, on verra plus tard, mais on n'est pas arrivé, il manquait. Bon.
Comme en Islande.
Comme en Islande, voilà. Et puis quelques semaines plus tard, c'est d'ailleurs Robert qui a dit, mais c'est absurde, faisons-le nous-mêmes, faisons-le tout seul. Et donc on a proposé à Solveig, j'ai vu Solveig, j'ai dit, voilà, nous on peut investir 500 000 euros pour que tu fasses le film. Est-ce que tu es capable, est-ce que tu te sens capable de faire ce film? 500 000 euros, c'est à la fois beaucoup d'argent et en même temps très peu dans le cadre de la fiction, disons, française. Et Solveig a eu cette phrase incroyable, incroyable, elle a dit, mais 500 000 euros, mais c'est énormément d'argent. Donc en fait, on a fait le film comme ça. À aucun moment, on a fait le film fauché. On s'est dit, on a de l'argent, on a 500 000 euros, c'est beaucoup d'argent.
Le film ne fait pas fauché.
Le film ne fait pas du tout fauché.
Au contraire, il est d'une richesse accumulative.
Alors, ça a pu se faire aussi parce que autour de Solveig, il y a une tribu. Voilà. Et je pense qu'on peut pas ne pas parler de la tribu de Solveig. Quand je parle de la tribu, je parle évidemment de la tribu des comédiens, mais je parle aussi de la tribu des techniciens. Mmh. Je pense évidemment à Isabelle Razavet, je pense à Martin Wheeler, je pense à Jean Mallet, je pense à Anne Riegel, je pense à Marie Le Garec, je pense à toutes celles et tous ceux, Éric Boiteau, qui l'ont entouré et qui ont fait que ces films ont pu se faire. C'est aussi parce que eux ont suivi dans des conditions économiques compliquées, et ils seraient allés au bout du monde pour Solveig.
Mais il y avait une tribu aussi parce que Solveig savait accueillir, non seulement parce qu'elle était ouverte aux gens, ça on le voit dans ses documentaires, mais parce qu'elle incluait les propositions artistiques. C'était quelqu'un qui était à l'écoute, non seulement de ses comédiens, mais aussi de toute son équipe.
Bien sûr, elle laissait un grand espace et puis mais elle donnait du sens à notre travail. Enfin moi, Solveig m'a donné énormément de sens à mon travail de producteur.
Entemin.
On sent aussi beaucoup d'égards, c'est-à-dire que Solveig, à la suite, par exemple, de cette décision de faire le film malgré tout, elle va changer son scénario. Elle va dire voilà, je ne veux pas fatiguer mon équipe outre mesure, je vais supprimer des scènes de nuit, je vais supprimer des scènes de figuration, on va faire ça dans un périmètre encore plus restreint, où on pourra aller à pied d'un décor à un autre. Il faut quand même, faut tenir compte de la fatigue de l'équipe. Ça, c'est le genre de choses, on peut pas le savoir quand on voit le film, mais quand on écoute ses propos, quand on lit les témoignages, on découvre que voilà, pour elle, la vie et le film, y a des allers-retours sans cesse.
Et on dansait beaucoup aussi dans les films de Solveig Anspach. Ce n'est pas pour rien dans le charme et le plaisir qu'on trouve à les voir et à les revoir. Merci beaucoup Florence Floreca et Patrick Sobelman. Cet improbable reggae jamaïco-islandais, c'était le générique de fin de Baksoon et c'était écrit par Martin Wheeler, grand membre éminent de la famille du cinéma de Solveig Anspach. Pour voir, revoir, re-revoir, redécouvrir, découvrir les films de Solveig Anspach, fiction comme documentaire, le coffret de l'intégrale ou presque de son œuvre. Il y a encore des documentaires qui n'y sont pas, est édité chez Blackout. Vous écoutez Plan Large sur France Culture et à l'heure où je vous parle, un étrange objet volant non identifié traverse le ciel de Paris et de quelques autres capitales dans le monde à la vitesse phénoménale de 6000 km/h.
हमें अभी-अभी एक बुलेटिन मिली है जिससे यह पता चलता है कि एक बड़ी चीज पर्वत से पश्चिम की तरफ उड़ती जा रही है।
Information jusqu'à présent laisse penser qu'il s'agit d'une fusée téléguidée. S'agit-il d'une bombe planante, de troupes aéroportées? C'est ce que nous ne savons pas encore.
Reports are coming in from all over the empire, from all over the world.
The government has not yet issued any statement, but there seems to be no question that there actually is a large unidentified object circling the Earth at incredible speed.
This is Elmer Davis again. We still don't know what it is or where it comes from, but there's something there. It's been tracked around the Earth by radar, traveling at a rate of 4,000 miles an hour. This is not another flying saucer scare. Scientists and military men are already agreed on that. Whatever it is, it's something real.
We interrupt this program to give you a bulletin just received from one of our naval units at sea. A large object traveling at supersonic speed is headed over the North Atlantic toward the east coast of the United States.
This is H.V. Kaltenborn speaking. Here in the nation's capital, there is anxiety and concern, but no outward sign of panic. As a matter of fact, there are signs of normalcy. The beautiful spring weather, the tourist crowds, around the public monuments and other buildings.
Dans toutes les langues, on s'interroge sur ce qu'est cet objet qui vole dans les ciels de la Terre. Tout va bien à Washington, pas de signe de panique. Les touristes visitent les monuments. Ça ne va pas durer. C'est le début du jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, étrange et drôle de cinéaste, hein, que Robert Wise, très éclectique, c'était le monteur d'Orson Welles sur Citizen Kane et La splendeur des Ambersons. Il commence sa carrière de réalisateur avec des films d'horreur, La malédiction des hommes-chats, La suite de la féline, ou Le récupérateur de cadavres avec Boris Karloff. Le film d'horreur, un genre dans lequel il va s'illustrer plus tard avec La Maison du Diable. On lui doit aussi des films de guerre, La canonnière du Yangtze, des comédies musicales, rien moins que West Side Story et La Mélodie du Bonheur, et puis donc aussi des films de science-fiction. Le premier Star Trek, culte au cinéma en 1979 et bien avant, donc en 1951, en pleine guerre froide, en plein début du macartisme aussi, ça fait un lien avec le père de Solveig Anspach, et alors que la mode est plutôt aux extraterrestres belliqueux que venu de Mars, la planète rouge, pour ne pas dire soviétique, envahisseur venu dominer le monde en général et les États-Unis en particulier. Robert Wise, 30 ans avant E.T., invente la figure de l'étranger intersidéral, certes, mais totalement bienveillant et pacifique, N.T.B.I.N.
Oui, alors il y a autre chose qui rapproche Robert Wise bizarrement de Solveig Anspach, c'est ce paradoxe du réel. C'est-à-dire que Robert Wise est persuadé que le film de science-fiction, c'est la meilleure manière de parler du monde d'aujourd'hui, du monde réel, enfin du monde contemporain. Et d'ailleurs, ce qu'on a entendu, c'est de la reconstitution d'actualité, un petit peu comme Orson Welles l'avait fait avec son adaptation de La Guerre des Mondes. Orson Welles qui a été à l'origine de la carrière de Robert Wise. Alors, Robert Wise, c'est l'un des trois grands monteurs qui sont devenus grands cinéastes. Il y a David Lean, il y a Alain Resnais, il y a aussi Robert Wise. Et ce qu'il est formidable chez lui, c'est qu'il a appris à adapter les budgets et les moyens qu'on lui donnait à l'histoire qu'il avait à raconter. Et il a touché à peu près tous les genres. Il a fait deux westerns, il détestait le western. Il disait, il y a que les Français pour trouver que le western, c'est une ode au Nouveau Monde. Moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. Et par contre, ce qui l'intéressait, je pense, dans la science-fiction comme dans la comédie musicale, c'était de faire se rejoindre une stylisation formelle avec un ancrage dans la réalité. Là, il y a une chose assez amusante dans ce qu'on a entendu, c'est que dans les reportages radio, dans les annonces radio qui sont faites, il y a un reporter qui dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une autre histoire de soucoupe volante ». Et le plan d'après, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une soucoupe volante se découper dans le ciel avec un trucage grossier, puis qui se dépose à Washington. Voilà. Ça, c'était le genre d'aller-retour qu'aimait bien faire Robert Wise.
Alors, que raconte le jour où la Terre s'arrêta ? C'est un peu le contre-champ de La chose d'un autre monde, oui, de Nigby et Howard Hawks. C'est vraiment le contraire.
C'est le contraire, puisque ce n'est pas la chose, justement. C'est l'humain d'un autre monde. Donc, c'est un film sur la différence, sur l'altérité. Et c'est vrai, alors, ce qui est étonnant, c'est que cet extraterrestre qui sort de sa soucoupe, eh ben, il parle anglais, c'est un acteur, voilà, et personne n'a l'air de trouver ça étrange. Évidemment, il est d'une intelligence tellement super normale que les extraterrestres dans ce film, ils ont appris à parler le langage de la planète où ils vont débarquer pour pouvoir mieux communiquer avec eux, puisque c'est un film sur la communication. C'est une fable sur il faut se parler entre nous, sinon on va à la catastrophe. La catastrophe, c'est non seulement la guerre, mais c'est un film pré-écologique aussi, c'est la destruction de la planète. Voilà, il est venu pour avertir les terriens de la menace d'anéantissement de la planète Terre. Hein, c'est environnemental.
C'est là que le message pacifique est un peu plus compliqué que ça.
Bah parce oui,
que
non, mais le message pacifique, en fait, il est réduit à sa plus simple expression, c'est genre arrêtez vos chamailleries entre vous, l'Est, l'Ouest, etc. La Terre est en danger. Donc, s'il y a plus de planète, il y aura plus vos chamailleries. Donc voilà. Et personne, évidemment, ne veut l'écouter. Et on va s'employer à le faire taire.
Attention zone 5. Attention zone 5. A report when target vehicle passes your position.
It's only a few blocks to Barnard's.
Worried about Gort. I'm afraid of what he might do if anything should happen to me.
Gort? But he's a robot. Without you, what could he do?
There's no limit to what he could do. He could destroy the Earth. If anything should happen to me, you must go to Gort. You must say these words. Klaatu, Barada, Nikto. Please repeat that.
Klaatu, Barada, Nikto.
You must remember those words.
L'extraterrestre est dans une voiture, un taxi, il est poursuivi par par l'armée, il est avec son amie terrienne, Helen Benson, jouée par Patricia Neal. Alors il s'inquiète beaucoup de ce que fera son robot, Gort, s'il lui arrive quelque chose, puisque Gort est une puissance destructrice quasiment autonome, et il va dire à son ami, et surtout va dire à Gort, si jamais il m'arrive quelque chose, dis-lui Klaatu, Barada, Nikto, des paroles mythiques dans le cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire enfin, Ntebin? Klaatu, Barada, Nikto.
Alors ça, justement, ce qui est génial, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça veut dire. C'est juste devenu la phrase culte de tous les cinéphiles des années 50 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut dire quelque chose au robot et on ne sait pas. On sait juste que Klaatu, c'est le nom de l'extraterrestre. Et voilà. Et ça fait partie aussi de l'aspect un peu ludique du film, de jouer avec les genres.
C'est une phrase qui va être reprise dans un nombre incroyable de films, et y compris dans Star Wars, il y a trois personnages qui s'appellent Klaatu, Barada et Nikto à cause de ce film.
Ah oui, des citations. Oui, c'est vraiment une phrase fétiche de tous les cinéphiles depuis les années 50. Et tout ça dans une économie de films noirs. C'est-à-dire, faut pas oublier qu'il a commencé dans des films noirs fauchés, des films d'horreur, enfin d'après Stevenson, avec des éclairages extraordinaires, avec cette musique de Bernard Herrmann qui fait intervenir du thérémine, enfin ou de la musique électronique. C'est absolument incroyable cette panoplie de genres qui sont mis au service d'un message, d'une fable à contenu politique, mais d'ailleurs pas si simple que ça. C'est-à-dire que à la sortie du film même, certains ont interprété le message de l'extraterrestre comme un message impérialiste qui serait celui des Américains. Alors que justement, je pense que c'est plutôt l'inverse qui se passe dans le film. Mais ça veut dire aussi que Robert Wise n'est pas si simple et dans ses films, la vie n'est pas aussi manichéenne qu'on ne le penserait.
Thank you.
Merci beaucoup Anne Tebbin. Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, avec cette très envoûtante musique de Bernard Herrmann, c'est à voir en salle et en copie restaurée. Et c'est vraiment une formidable force et de radicalité, de sécheresse dans la mise en scène. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Pierre Faucillon. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na, notre détaillons de tir à nous.